Aujourd'hui, je vais vous lire les conditions de réalisation de la gnose, de la synthèse des yogas, le yoga de la connaissance intégrale et le yoga de l'amour divin, traduit de l'anglais par Mère. Dès lors, nous commençons à comprendre avec une force très concrète, normale, continue, la réalité de ce que les sages entendaient quand il déclarait que l'âme portait le corps et quand il disait que l'âme n'était pas dans le corps, mais que le corps était dans l'âme. C'est au-dessus du corps et non dans le cerveau que se formeront notre idéation et notre volonté. L'action cérébrale deviendra simplement un mouvement de réponse du mécanisme physique au choc de la force de pensée et de la force de volonté qui émane d'en haut. Tout sera déclenché d'en haut. D'en haut se produira tout ce qui, dans la gnose, correspond à notre activité mentale présente. La plupart des conditions du changement gnostique, sinon toutes peuvent et en fait doivent s'obtenir longtemps avant d'arriver à la gnose. Mais elles le sont tout d'abord imparfaitement dans le mental supérieur, comme par les réflexions et plus complètement dans ce que nous pouvons appeler une conscience surmentale entre l'état mental et la gnose. En outre, ce centre au-dessus et ce fonctionnement sont libres. Ils ne sont pas liés à la machine physique et ne dépendent pas d'elle. Ils ne sont pas cramponnés à un sens égoïste étroit. Ils ne sont pas embarrassés dans un corps, pas enfermés dans une individualité séparée qui cherche maladroitement à deviner le monde au dehors ou tâtonne au-dedans en quête de son esprit profond. Par cette grande transformation, notre conscience commence à n'être plus enclose comme dans une boîte génératrice. Elle se diffuse librement et s'étend partout dans sa propre existence. Il y a, on peut y avoir un centre, mais seulement pour la commodité de l'action individuelle. Il n'est pas rigide, ni constitutif, ni séparatif. Désormais de nature, même dans nos activités conscientes et universelles. Désormais, la nature même de nos activités conscientes et universelles. Nos activités sont une activité avec les activités de l'être universel et vont de l'universalité à une individualisation souple et variable. Ce que nous appelons « nous » est devenu la conscience d'un être infini qui agit toujours universellement, bien qu'il puisse mettre l'accent sur une formation individuelle des énergies. Mais cet accent différentiel plutôt que séparatif et cette formation n'est plus une individualité comme nous la comprenons maintenant. Il n'y a plus de structure limitée, plus de petites personnes enfermées dans la formule de son propre mécanisme. Cet état de conscience est si anormal pour notre manière d'être actuelle qu'il peut paraître impossible, et même dans un état d'aliénation pour l'homme rationnel qui ne la possède pas. Mais une fois qu'on le possède, il se justifie même à l'intelligence mentale par son calme plus grand, sa liberté, sa lumière, son pouvoir plus grand, par l'efficacité de sa volonté, par la vérité véritable de son idéation et de ses sentiments. Car cette condition commence déjà sur les plans supérieurs du mental libéré et peut donc être partiellement sentie et comprise par l'intelligence mentale lorsqu'elle laisse derrière elle les régions mentales. Mais on ne la possède parfaitement que dans la gnose supramentale. Dans cet état de conscience, l'infini devient la réalité primordiale, concrète, la seule chose immédiatement et raisonnablement vraie. Il devient impossible de penser ni de percevoir le fini en dehors de notre sens fondamental de l'infini, en lequel seul le fini peut vivre, se former, avoir une réalité quelconque ou une durée, tant que ce mental et ce corps fini sont, pour notre conscience, le fait premier de notre existence et le fondement de toute notre pensée, tous nos sentiments et de toute notre volonté, et tant que les choses finies sont la réalité normale d'où nous y sommes. À l'occasion ou même fréquemment, à l'idée et au sens de l'infini. Nous sommes encore très loin de la gnose. Sur le plan de la gnose, l'infini est tout à la fois la conscience normale de notre être, son fait premier et sa substance sensible. Pour nous, c'est très concrètement la fondation d'où se forme tout le fini. Et c'est là, par ces forces incalculables et sans limite, que sont mises en mouvement toute notre pensée, toute notre volonté et toute notre joie. Mais cet infini n'est pas quelque chose qui imprègne tout ou qui s'étend partout, et en quoi tout se forme et se produit. Derrière cette extension incommensurable, la conscience gnostique perçoit toujours un infini intérieur qui est sans espace. C'est par ce double infini que nous arriverons à l'être essentiel de Sat-Chit-Ananda. Moi suprême de notre être et totalité de notre existence cosmique. Une existence illimitée s'ouvre à nous et nous sentons tout d'abord qu'elle est comme une infinitude au-dessus de nous, à laquelle nous tentons de nous élever, comme une infinitude autour de nous en laquelle nous nous efforçons de dissoudre notre existence séparée. Puis, nous nous élevons jusqu'à elle et nous nous élargissons en elle. Nous jaillissons de l'ego dans cette étendue et nous devenons cela à jamais. Quand cette libération est accomplie, son pouvoir peut également prendre de plus en plus possession de notre être inférieur. Si telle est notre volonté, jusqu'à ce que même nos activités les plus basses et les plus perverties soient refaçonnées en la vérité de Vijnana. Ce sens de l'infini, cette possession par l'infini, telle est la base. C'est seulement après être parvenu là que nous pouvons nous approcher d'un état d'où opère assez normalement l'idéation, la perception, la sensation, l'identité et la conscience supramentale. Car ce sens de l'infini n'est lui-même qu'un premier fondement. Il en faut bien davantage avant que la conscience puisse devenir dynamiquement gnostique. Car la connaissance supramentale est l'activité d'une lumière suprême et beaucoup d'autres lumières, beaucoup d'autres niveaux de connaissance que le mental humain peuvent ouvrir en nous et recevoir ou refléter quelques rayons de cette splendeur avant même que nous nous élevions à cette gnose. Mais pour posséder pleinement la connaissance supramentale et en être le maître, il faut d'abord entrer en l'être de la lumière suprême et devenir cette lumière. Notre conscience doit se transformer en cette conscience. Son principe et son pouvoir de perfection de soi et de tout, par identité, doivent devenir la substance même de notre existence. Car nos moyens et nos manières de connaître et d'agir se modèleront nécessairement sur la nature de notre conscience. Et c'est la conscience qui doit radicalement changer si nous voulons être le maître de ce pouvoir supérieur au lieu d'être seulement visité par lui de temps à autre. Mais il ne se borne pas à une pensée supérieure ni à l'activité d'une sorte de raison divine. Il reprend tous nos moyens de connaissance actuels, mais en les rendant immensément larges, actifs, efficaces, au lieu d'être aveugles et infructueux, et de fermer qu'ils sont maintenant, et les change en une haute et intense activité de Vijnana. Ainsi, il reprend les activités de nos sens et illumine même leur champ ordinaire, si bien que nous avons une perception vraie des choses. Au sens mental, il donne une perception directe des phénomènes intérieurs autant que des phénomènes extérieurs. Par exemple, le pouvoir de sentir, de recevoir, de percevoir les pensées, les sentiments, les sensations et les réactions nerveuses de l'objet sur lequel il se porte. Le pouvoir de connaissance supramentale se sert aussi bien des sens subtils que des sens physiques et délivre ceux-ci de leur erreur. Alors, je vais terminer. Le pouvoir de connaissance supramentale se sert aussi bien des sens subtils que des sens physiques et les délivre de leurs erreurs. Il nous donne la connaissance et l'expérience d'autres plans d'existence en dehors du plan matériel auquel notre mentalité ordinaire est attachée avec ignorance et élargit le monde pour nous. De même, il transforme les sensations et leur donne leur pleine intensité, autant que leur pleine capacité de tenir la charge. Car la pleine intensité est impossible dans notre substance mentale normale. Le pouvoir de contenir et de supporter les vibrations nous est refusée au-delà d'un certain point. Sinon, le mental et le corps se briseraient tous deux sous le choc et la tension prolongée. Il reprend également l'élément de connaissance dans nos sentiments et nos émotions, car nos sentiments aussi contiennent un pouvoir de connaissance et un pouvoir de réalisation que nous ne reconnaissons pas et que nous ne cultivons. n'y vont pas convenablement, et les délivre tout à la fois de leurs limitations, de leurs erreurs et de leurs perversions, car en toute chose, la gnose et la vérité, le droit, la loi suprême, Devanam, Abdab, Dani, Vratin, Dani. Alors le droit, Aurobindo, met par opposition à la sinuosité de la conscience ordinaire. Voilà, Sri Aurobindo. Alors je mets ces conditions de réalisation de la gnose aux pieds de Sri Aurobindo et de Douce Mère. Merci Aurobindo, merci Mère, merci.